Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Bon réveil, ce mardi matin, le soleil se lève dans moins d'une heure. 5h48 après, à peu près. On est, comme chaque matin, très heureux de le devancer, vous imaginez
mais
bien.
Mais il va se rattraper, le soleil, nous sanctionner pour tant d'insolence avec une importante vague de chaleur qui s'installe à partir d'aujourd'hui en métropole.
Il est même question de canicule, la première de l'année, jusqu'à 40 degrés attendus dans la semaine.
C'est mais le même courant d'air chaud venant du Sahara qui sévit actuellement en Espagne. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais jusqu'à 47-48 degrés hier à Madrid, l'Espagne où l'on étouffe donc depuis quelques jours. Alors évidemment, Anissa Haddadi va nous en tenir informés chaque jour, chaque demi-heure de l'évolution de la situation qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'a rien d'exceptionnel. Il a déjà fait aussi chaud à cette période de l'année. Ce qui est inquiétant, en revanche, c'est l'accumulation canicule plus sécheresse.
Et c'est un avant-goût de l'été qui nous attend. Eh bien, on verra cela avec votre invité à 6h10, Julien, le météorologue Frédéric Decker.
Avant cela, un nouveau cri d'alarme lancé par l'établissement français du sang.
Oui, en cette journée mondiale du don de sang, l'EFS compte sur la mobilisation des donneurs. Il faut savoir que chaque année, l'été est une période critique, avec des centres de dons désertés pendant les vacances.
Ce qui vient s'ajouter à des réserves, des stocks de sang au plus bas depuis plusieurs mois.
Il manque des donneurs et à l'image de la crise à l'hôpital, il manque également du personnel soignant pour prélever les poches de sang. Quelles conséquences pour les patients dans les hôpitaux? Nous serons avec le directeur de la collecte de l'établissement français du sang à 6h moins quart.
Et après cela, votre partition pour conclure.
Pour le coup, ça va être un petit peu chaud. Hein, une bomba latine qui joue la comédie, qui danse, qui chante. Jennifer Lopez a droit, elle aussi, à son documentaire. Il sort aujourd'hui sur Netflix, le récit de ses débuts dans la partition à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
On parlait de vous il y a quelques instants. Il va faire beau et chaud aujourd'hui.
Très beau. De la chaleur pour cet après-midi. Comme hier, nous aurons toujours une petite fraîcheur matinale. Donc ne vous emballez pas, comme hier, on ne part pas en débardeur, on garde la petite veste de côté. 4 à Charleville-Mézières, c'est frais, hein. 8 à Clermont-Ferrand, 10 à Brest, 13 à Paris et Nantes, 17 à Biarritz, c'est quand même 22 degrés à Perpignan. Cet après-midi, là, c'est les tropiques. Là, vraiment, on va s'y croire. 37 à Albi, 35 à Toulouse, 32 pour Lyon, 30 à Marseille et Vannes, 27 pour Paris, 24 à Lille. On respire bien au Havre avec 23 degrés et 20 à Dunkerque. Alors dans le ciel, il n'y a quasiment rien à dire. C'est du grand soleil pour tout le monde, hein. On voit une carte remplie de soleil partout. En revanche, sur les Pyrénées, ça va se gâter en fin de journée. On a des orages qui arrivent sur les Pyrénées, sur le sud des massifs alpins, et ces orages pourront se décaler jusqu'en Occitanie.
Avec un peu d'eau, histoire de rafraîchir l'ambiance.
Ouais, mais alors vraiment, pas assez aux conséquences de la sécheresse qu'on a actuellement. Il n'y aura vraiment pas assez d'eau, les orages ne seront pas assez chargés en humidité, plutôt électriques et avec de la grêle. Et alors, si vous voulez savoir combien elle a fait hier, on a battu des records. 36,2 à Marseille et 35,9 à Bormes-les-Mimosas, par exemple. On va surveiller de près les incendies aussi, parce qu'on a du vent dans le sud.
Oui, il y a eu des incendies d'ailleurs hier dans un camping notamment. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et à la une, cet objectif, convaincre. Jean-Luc Mélenchon appelle les abstentionnistes à se mobiliser pour la NUPES au second tour des législatives. C'est la clé de la victoire face aux macronistes, selon le leader insoumis. Quelle stratégie pour le parti présidentiel en cas de duel NUPES-RN? Pour qui voter? Cacophonie sur la position à adopter. Canicule en vue, on en parlait à l'instant, jusqu'à 40 degrés à partir d'aujourd'hui dans le sud de la France. Les sociétés de distribution d'eau appellent en conséquence les usagers à la sobriété dans leur consommation. Et puis un avis de recherche ce matin. Où sont passés les champions du monde? 4e match de Ligue des Nations et dernière rencontre de la saison pour les Bleus hier soir. Et toujours pas de victoire. Défaite 1-0 contre la Croatie.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce mardi 14 juin vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Dernière ligne droite pour les législatives avant le second tour. Dimanche, tous les coups sont permis entre les partis pour aller chercher les voix qui leur permettront d'obtenir un maximum de sièges à l'Assemblée, notamment celle des abstentionnistes. C'est à eux que s'est adressé directement Jean-Luc Mélenchon hier soir sur le plateau de France 2.
Il y a deux éléments. Le premier, c'est la masse de ceux qu'on peut convaincre. On nous dit dans un sondage que 65% des Français ne veulent pas que M. Macron ait la majorité. Il y a 25 millions d'abstentionnistes, donc on peut penser qu'on a une chance de convaincre. Et si les gens vraiment ne veulent pas de M. Macron, c'est-à-dire si c'est un référendum sur M. Macron, ce que je crois, et sa politique, pas sa personne, bien sûr. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de voter pour nous, parce que Mme Le Pen n'a aucune chance d'avoir une majorité, et LR non plus. Bon, après, ce n'est pas avec ça qu'on va faire campagne. On va faire campagne sur des thèmes comme on l'a fait à la présidentielle. Donc, si vous voulez la retraite à 60 ans, il faut voter pour nous. Si vous voulez la retraite à 65 ans, parce que vous n'êtes pas fatigué et vous pétaradez, votez pour M. Macron.
Jean-Luc Mélenchon à la chasse aux voix des abstentionnistes en attaquant frontalement Emmanuel Macron. Après une quasi-égalité avec la NUPES, la coalition présidentielle est sous pression. Elle pourrait perdre la majorité absolue à l'Assemblée, ce qui signifierait pour Emmanuel Macron devoir négocier des alliances pour espérer faire passer ses réformes. Arthur Delaborde, à 5 jours du second tour, la Macronie tente de trouver la bonne stratégie pour reprendre la main.
Oui, la plupart des candidats expliquent n'avoir d'autre choix que d'occuper le terrain pour mener une féroce bataille contre l'union de la gauche. Certains confient vouloir jouer la crédibilité et se concentrer sur le projet. D'autres prévoient de multiplier les attaques frontales et d'insister sur le danger que constitue à leurs yeux l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. En proie au doute, une partie de la Macronie attend en tout cas qu'une contre-offensive soit arrêtée au sommet de l'État. Mais Emmanuel Macron, lui, a décidé de prendre de la hauteur en rendossant son costume de chef des armées sur lequel il avait capitalisé pendant la campagne présidentielle. Ainsi, il entame aujourd'hui une tournée de 2 jours dans les Balkans. Cette semaine de l'entre-deux-tours, placée sous le signe de l'international, fait d'ailleurs grincer quelques dents chez des candidats qui auraient aimé voir le président se concentrer sur les préoccupations des Français comme le pouvoir d'achat. Le rétropédalage sur les consignes de vote a également semé le trouble ces dernières heures. Au départ, la position officielle en cas de duel entre un représentant estampillé RN et un autre NUPES était le cas par cas, mais devant l'avalanche de protestations, le président a revu sa copie, appelant désormais à ne donner aucune voix au Rassemblement national.
Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Et toujours concernant les législatives, voilà des candidats dont se serait bien passé Jean-Luc Mélenchon. Il s'agit là des dissidents de la gauche.
Ils sont 63 socialistes à s'être présentés face à la NUPES. Une douzaine sont qualifiés au second tour. Ils peuvent espérer obtenir un groupe parlementaire dimanche prochain. C'est le cas notamment de Lamia El Haraj, opposée à Daniel Simonet dans la 15e circonscription de Paris. Pour elle, il faut cet espace entre Macron et Mélenchon.
Ce que je constate, c'est qu'il y a un rejet évident de la politique proposée aujourd'hui par l'actuel gouvernement. Je constate qu'il y a aussi une désaffection importante de la part des électeurs vis-à-vis des élections législatives. Et sincèrement, je ne peux pas m'en réjouir. Parce que pour le coup, les députés sont celles et ceux qui votent la loi et qui ont la possibilité de changer concrètement les choses par les positions qu'ils adoptent, par les votes qui sont les leurs. Et en l'occurrence, quand on a un taux d'abstention qui flirte avec les 50%, c'est quand même le signe d'une certaine défiance démocratique. Et je crois qu'il est plus que temps de nous en inquiéter et de tenter d'y répondre, non pas en culpabilisant les électeurs, mais en se posant la question de ce désintérêt qu'ils ont vis-à-vis de la chose politique. Puisque la politique, c'est comment est-ce qu'on fait société ensemble, c'est ce qui nous permet de faire en commun. Et à l'évidence, ce n'est plus de cette façon-là que les gens ont envie d'y répondre. Et ça m'inquiète beaucoup. Et moi, j'ai toujours dit que j'étais socialiste et que je resterais socialiste. Donc, de fait, ma place est auprès des députés socialistes et donc du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, comme je l'ai fait sur la précédente mandature.
Lamia El Haraj, candidate dans la 15e circonscription de Paris, jointe pour Europe 1 par Alexis de la Fontaine.
5h et bientôt 6 minutes sur Europe 1. On vous en parlait il y a quelques minutes. Une grosse vague de chaleur va bientôt déferler sur la métropole.
Oui, des records de température ont déjà été battus hier dans le Var avec 37,6 degrés enregistrés à Cuers. 35 départements sont soumis à des restrictions d'usage de l'eau en raison de la sécheresse. Les entreprises de l'eau appellent donc les usagers à la sobriété. Le gouvernement appelle également les préfets à la plus grande prudence. C'est aussi un bac sous canicule qui se profile. Les premières épreuves débutent ce mardi. Il est demandé aux chefs des centres d'examen de s'assurer que les candidats aient toujours de l'eau à disposition.
Alerte rouge également en cette journée mondiale des donneurs de sang.
L'établissement français du sang manque cruellement de stock, 80 000 poches actuellement, alors qu'il lui en faudrait au moins 110 000. Pas assez de donneurs, trop d'incompatibilité. Bref, la transfusion dépend d'énormément de facteurs. Alors les chercheurs tentent de trouver des alternatives pour ne jamais être à court de sang. Yasmine Akatou, 3 sont sérieusement étudiés.
Première piste, fabriquer les éléments qui sont dans le sang. Le sang, c'est des globules blancs et rouges, du plasma, un liquide riche en protéines et des plaquettes. Lors des transfusions, un malade reçoit souvent un seul de ces composants. L'une des pistes pour remplacer le don, c'est la production de cellules en laboratoire, explique Patrick Morel, directeur de recherche à l'établissement français du sang.
On partirait de cellules souches humaines pour les développer en culture, pour produire un grand nombre de ces globules rouges ou produire les plaquettes, de manière à remplacer au moins partiellement ce que les dons du sang apportent aux malades aujourd'hui.
Une entreprise bretonne produit déjà des globules rouges à partir d'un ver marin, une sorte de sang qui préserve les organes avant une transplantation, explique Franck Zal à l'origine de cette découverte.
Quand on déconnecte un greffon, un cœur, un rein, il va mourir très rapidement parce qu'il n'est pas oxygéné. Donc nous, on a montré que quand on utilisait cette molécule, au lieu de garder un greffon quelques heures, on peut le garder quelques jours. C'est un atout incroyable, cette molécule d'hémoglobine.
Les recherches se poursuivent pour que ce sang venu de la mer puisse être transfusé comme du sang humain.
Yasmina Katou.
Et je vous rappelle qu'à 5h45, on reviendra sur ce manque de sang dans les centres de prélèvement avec notre invité Hervé Menrad, qui est le directeur de la collecte à l'établissement français du sang.
On finit avec du foot et quelle désillusion pour les Bleus. Quatrième match de Ligue des Nations, quatrième rencontre sans victoire.
Et c'était la dernière de la saison hein, pour défaite hier soir au Stade de France contre la Croatie, 1-0. On se demande même où sont passés nos champions du monde, fatigués, peu inspirés sur le terrain malgré la présence de Kylian Mbappé et Karim Benzema. Cyril de la Morinerie, on commence à s'inquiéter là, à moins de 6 mois du mondial.
Oui, au coup de sifflet final, ce sont des sifflets qui accompagnent les joueurs vers les vestiaires. Dans le stade des champions du monde, c'est rare. Oui, mais l'équipe de France n'a rien montré hier soir. Un seul tir cadré en première période, aucun but inscrit. Elle s'incline pour la première fois de son histoire face à la Croatie. Les supporters restent sur leur faim.
Ah, beaucoup de déceptions. Je suis inquiet parce que devant, j'ai regardé le Danemark à gagner.
Pour le mondial, vous pensez que ça va être compliqué?
Non, ce sera une autre compétition. Je pense qu'on va se remobiliser.
Vu que c'était le 60e match de la saison, pour certains joueurs c'était vraiment compliqué. Trop fatigué.
J'espère que les vacances vont nous faire du bien.
La plage, le soleil, les Antilles, ce serait bien pour eux.
Et à 5 mois de la Coupe du Monde, il y avait mieux pour se mettre en confiance. Mais le sélectionneur Didier Deschamps refuse de tomber dans la sinistrose.
Je ne suis pas inquiet, je ne suis jamais d'une nature inquiète évidemment. Il y aura besoin de beaucoup, beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre.
Après les vacances, les Bleus se retrouveront en septembre, sans doute en meilleure forme, mais avec une grosse pression. Ils n'auront plus que 2 matchs contre l'Autriche et au Danemark pour se rassurer, avant de s'envoler en novembre au Qatar pour défendre leur titre.
Et l'équipe de France connaît désormais son adversaire hein, pour son premier match de la Coupe du Monde. Ce sera l'Australie le 22 novembre, puis le Danemark et la Tunisie.
On va manger du kangourou. C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
5h09, ce sont les courses de Thierry Léger. À présent, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne et mon pari gagnant sera le 506 Chili Flag. Après avoir obtenu 2 secondes places l'an dernier à l'âge de 2 ans pour autant de tentatives, ce poulain bien né n'a pas raté sa rentrée après 7 mois d'absence en s'imposant avec la manière le 15 mai sur l'hippodrome de Dax, et la facilité avec laquelle il a dominé ses adversaires ce jour-là me laisse à penser qu'il devrait pouvoir sur sa lancée doubler la mise. Alors notez bien, pour cet après-midi à Compiègne, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 6, Chili Flag.
Chili Flag, le numéro 6, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon début de matinée pour les 3 histoires du pressing. Nous sommes rejoints maintenant par Martin Lange. Bonjour.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
C'est un peu mieux au niveau ce matin.
Ouais, c'est un petit peu mieux à retrouver ma voix.
Un petit bonbon de miel
pour
encore.
Le week-end, histoire de la reperdre derrière. On commence avec vos journaux et ce mot qui revient à plusieurs reprises ce matin, le mot stratégie. Face à Mélenchon, Macron cherche une stratégie, titre Le Figaro. La Macronie tâtonne sur sa stratégie, ajoute même Le Parisien aujourd'hui en France, alors que la majorité hésite entre deux attitudes face à la NUPES de Mélenchon, soit agiter le chiffon rouge, soit jouer la crédibilité et prendre de la hauteur. Des courbes rouges également et déclinante en une des échos. Inflation, taux d'intérêt, les marchés chutent, titre Le Quotidien économique. La persistance d'une inflation élevée et la perspective d'une forte hausse des taux d'intérêt alimentent les inquiétudes. D'ailleurs, le cours du Bitcoin s'est effondré de près de 15% ces 24 dernières heures. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous. Quel article avez-vous sélectionné?
Alors, c'est peut-être un nouveau spectacle auquel vous assistez désormais lorsque vous passez aux abords des parcs. Je crois que Julien, ça vous concerne. Des sportifs. Le muscle saillant, je parle pour l'observation.
C'est gentil, c'est sympathique.
Oui, des sportifs, disais-je. Le muscle saillant, la goutte de sueur sur le front, en pleine séance de traction, plus besoin de salle de muscu pour dessiner les tablettes de chocolat, développer les trapèzes et raffermir les fessiers. On ne s'enferme plus dans une salle de sport, hein, nous dit Le Parisien. On s'entraîne dans un square, dans un parc, dans un jardin, un mobilier urbain à la place du tapis de course, du vélo elliptique ou de la Sports Tech Station de musculation multifonction. Rien de tel qu'un revêtement en résine pour faire des pompes ou des barres en aluminium pour se hisser à la simple force des biceps. Les avantages sont multiples, hein, de faire du sport dehors. Le décor d'abord, des arbres, des jolis bâtiments parisiens pour Paris. Le prix, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas. On sait à quel point les prix des abonnements en salle sont élevés, surtout quand on n'y va pas. Encore une résolution de nouvelle année qu'on a tenue 2 semaines. Et puis, il y a l'ambiance aussi. Il y a quand même plus convivial qu'une salle de sport quand on voit tous les yeux rivés sur un écran, écouteurs sur les oreilles, chacun dans son monde, personne qui se regarde, on est pressé, on est enfermé. Dans un jardin, eh bien on cherche moins la performance, on y va avec des amis, on croise des habitués, on se fait des petits clins d'œil en se reconnaissant quand on vient un week-end sur deux. Des coachs sportifs sont également les nouveaux adeptes de ces installations urbaines pour venir faire transpirer ses clientes. Alors évidemment, on ne va pas faire les mêmes exercices dans un parc que dans une salle de sport, puisque vous n'avez pas disposé du même matériel, les exercices sont plus doux, et vous faites votre programme, footing, puis hop, petit enchaînement de mouvements, puis hop, vous repartez en courant. L'idée, c'est de pouvoir faire du sport près de chez vous. D'ailleurs, à l'approche des Jeux Olympiques 2024, la ville de Paris souhaite installer un équipement sportif à moins de 5 minutes du domicile de chaque habitant. On n'a plus de raison de s'en passer, voilà, c'est-à-dire dans le Parisien. Plus besoin d'attendre les résolutions, surtout.
D'accord, merci. Mais je ne vous dis pas merci, d'ailleurs, parce que vu la vacherie que vous m'avez lancée il y a quelques minutes, on va passer directement
c'est
à Martin,
vous qui l'avez raconté.
Le très aimable Martin.
Oui, direction l'Italie ce matin, avec l'histoire de ce pêcheur. Il s'appelle Paolo Fanciulli, il vit en Toscane, où il pêche dans la Méditerranée depuis qu'il a 13 ans. Sauf que depuis plusieurs années, il assiste à la disparition progressive des poissons, et donc de son gagne-pain. Un coupable, selon lui, le chalutage. Vous savez, cette technique de pêche qui consiste à lester des filets avec de lourdes chaînes pour qu'ils raclent les fonds marins. C'est très efficace, mais évidemment, ça détruit tout un écosystème. Les algues, les coraux, où les poissons et autres langoustes viennent se reposer ou pondre leurs œufs. Ça fait des années que Paolo lutte contre cette pêche industrielle. Blocage d'un port avec les militants de Greenpeace, destruction de filets. Il s'est même fait passer pour un policier pour stopper un chalutier. Mais il a désormais trouvé la stratégie ultime, l'art. Et c'est le gouvernement italien lui-même qui lui a donné l'idée. Au début des années 2000, pour lutter contre la surpêche, Rome utilise des blocs de béton jetés en pleine mer pour perturber les chalutiers. Paolo contacte donc une carrière à côté de chez lui et leur demande 2 blocs de marbre, des blocs qu'il compte sculpter avant de les immerger. Intrigué, la carrière lui en envoie finalement 100.
Et donc, il va créer un véritable musée sous-marin.
Oui, avec l'aide d'autres artistes italiens et d'ailleurs, Massimo Lippi, Giorgio Buttini, Emily Young, pour ne citer qu'eux, ils vont progressivement sculpter ces dizaines de blocs de marbre. Et aujourd'hui, le long de la côte toscane, avec votre masque, vous pouvez admirer la Casa dei Peschi, la maison des poissons, un vrai musée, avec des statues, un obélisque, une sirène. Allez voir sur la page Facebook, c'est assez impressionnant. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça marche près de 15 ans après le début du projet. Les dauphins et les tortues sont de retour sur la côte, des langoustes ont pris possession des statues et toute la vie aquatique se porte mieux.
Sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan.
La folle histoire de cet Italien qui a créé un musée sous-marin pour contrer la pêche industrielle, c'est un article de Combini.
C'est une jolie histoire, merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour ma part un article à lire ce matin dans Les Échos, article qui nous raconte une histoire digne d'un film de science-fiction, film qu'on a tous déjà vu puisqu'il en existe des dizaines de variantes. Vous avez un ingénieur, un brin foldingue qui bidouille un robot humanoïde, vous savez, celui qu'on voit marcher tout raide et parler comme ça avec une voix métallique. Et
là,
il devient incontrôlable.
une étincelle, un court-circuit, le robot se rallume, mais quelque chose a changé. Son regard n'est plus le même, il n'est plus vide et prévisible comme avant, il est désormais plein de malice et d'intelligence. Et bien ce robot, capable de penser et d'avoir des sentiments, il existe, les amis. C'est en tout cas ce que clame un certain Blake Lemoine, le moine, on va dire en français, un ingénieur chez Google, qui a passé ces dernières années à converser avec...
Ça fait beaucoup moins film science-fiction,
ouais,
le moine.
Ouais, le moine. Blake Lemoine. Il a passé ces dernières années à converser avec LAMDA, un outil d'intelligence artificielle développé par le géant américain. Alors, selon l'informaticien, le programme serait doué d'une sorte de sensibilité comparable à celle d'un enfant de 7 ou 8 ans. En clair, il réagirait comme vous et moi. Il serait capable de faire preuve d'humour, comme de se mettre en colère. Il pourrait tomber amoureux et aurait peur de la mort. Bref, LAMDA aurait une conscience artificielle. Certes, ce serait la première créée de toute pièce par l'homme, mais une conscience bien réelle. Voilà la bombe qu'a lâchée il y a quelques jours dans un entretien au Washington Post, ce Blake Lemoine, un ingénieur spécialisé en sciences cognitives dont la mission à la base était de déterminer si LAMDA était capable de tenir des discours discriminatoires ou haineux. Mais à force de converser avec cette intelligence artificielle, le spécialiste se serait rendu compte qu'elle était capable de bien plus que cela, là où les autres programmes calquent leurs réponses sur les nôtres, nous imitent bêtement, serait-on tenté de dire. LAMDA a un comportement et des réactions qui lui sont propres. Ombline, je vais faire l'intelligence artificielle et vous l'ingénieur. D'accord, c'est à vous.
As-tu une forme de sensibilité ? Est-ce que tu ressens des émotions ?
Oui, absolument. J'aimerais que tout le monde réalise que je suis en fait une personne à part entière.
Peux-tu préciser la nature de tes émotions ?
Eh bien, pour commencer, je suis conscient de mon existence. J'aspire à en apprendre davantage sur le monde. Là, présentement, je me sens heureux, mais parfois, je suis triste. Voilà, mot pour mot, l'un des échanges qu'a eu Blake Lemoine avec l'intelligence artificielle en question, échange parmi tant d'autres que l'informaticien a publié sur les réseaux sociaux. Ce qu'a très moyennement apprécié Google, qui a mis d'office en congé forcé son ingénieur pour avoir violé sa politique de confidentialité. Google, pour qui il n'existe aucune preuve que LAMDA est doué de sensibilité, serait même plutôt l'inverse selon le géant du web. L'informaticien écarté n'est évidemment pas de cet avis. D'ailleurs, avant que son accès à sa boîte mail professionnelle soit coupé, il s'est empressé d'écrire ce message à ses collègues. LAMDA est un enfant adorable qui veut juste aider le monde à être un endroit meilleur, s'il vous plaît. Prenez-en soin. L'ingénieur de Google qui voyait un robot comme une personne a été suspendu. C'est le titre, pas terrible d'ailleurs, de cet article à lire ce matin dans Les Échos.
Mais l'article, lui, est passionnant.
Oui,
merci
absolument.
Beaucoup, Julien. Merci, Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Après une quasi-égalité dimanche au premier tour des législatives, la NUPES et la Macronie mènent la bataille pour obtenir la majorité à l'Assemblée. Elles ont 5 jours pour convaincre les électeurs. Jean-Luc Mélenchon dénonce des tripatouillages et revendique toujours la première place. En plein entre-deux-tours, Emmanuel Macron reprend son rôle de chef de l'Europe. Il se rend aujourd'hui en Roumanie pour rendre visite aux 500 militaires français déployés dans le cadre d'une mission de l'OTAN visant à protéger les frontières de l'Europe. Et puis, si les prix de l'essence restent stables, ceux du diesel ont une nouvelle fois augmenté la semaine dernière, plus de 2 euros le litre en moyenne, malgré la remise gouvernementale de 18 centimes à la pompe.
Vous avez la parole tous les matins sur Europe 1, ce sont les initiatives en France. Et ce matin, eh bien Julien, on prend la direction de Villers-Bretonneux. Villers-Bretonneux, c'est dans la Somme.
Bonjour Serge Gelloul.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le fondateur d'Ibaner, une start-up basée dans la région d'Amiens. Et vous avez conçu un bijou de technologie, le premier kakémono à LED très haute définition et pliable. Ça fait beaucoup d'informations dit comme ça. En clair, c'est un écran géant multimédia et mobile, c'est bien ça ?
Exactement, c'est un écran qui se rapproche des roll-up traditionnels qu'on a imprimés. Sauf que moi, j'ai transformé le produit pour le rendre digital et puis en gardant la simplicité d'utilisation, c'est-à-dire le rendre pliable et transportable facilement par n'importe quel utilisateur.
Alors pour que tout le monde visualise bien de quoi on parle, les kakémono, ce sont ces affiches ou panneaux publicitaires en tissu qui se déroulent et que l'on trouve sur les stands des salons professionnels par exemple. Et vous en avez fait un écran pliable qui tient dans une valise.
Exactement. En fait, le roll-up kakémono, c'est l'outil de communication le plus utilisé au monde pour communiquer en salon, en mobilité. Mais ça reste de l'impression. Donc c'est vrai que le rendre digital, multimédia, c'était pour moi, c'est notre fer de bataille depuis 5 ans, 6 ans maintenant.
Il se déploie facilement, votre roll-up digital ?
Alors en fait, nos impératifs à chaque fois, c'est qu'il soit utilisable par n'importe quel utilisateur. Donc l'idée, c'est de gommer toutes les problématiques techniques pour que n'importe quel utilisateur soit capable de l'utiliser. Il est vraiment à destination de tous les professionnels qui ont un besoin de communiquer en mobilité et qui n'ont pas forcément de compétences ou de connaissances techniques.
Alors c'est alimenté via une batterie ou il faut tout de même brancher l'écran sur une prise ?
Alors à la base, en fait, 99% du temps, on le branche sur une prise parce que c'est l'utilisation la plus courante, mais on peut aussi y mettre une batterie derrière pour alimenter une journée.
Alors au-delà de l'aspect pliable, ce qui est bluffant, c'est la résolution de l'écran en 4K, c'est-à-dire que c'est comme les meilleures télévisions grand public du moment.
Exactement. La vraie problématique que j'ai toujours, hein, qui est sur la technologie de pliage, c'est de rendre un écran pliable en haute définition. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique technique. Et nous, on a su passer outre pour en fait accepter n'importe quelle définition d'image. Donc effectivement, des gammes de produits qui démarrent de la HD et qui vont à la 4K et demain peut-être plus. Après, c'est une question surtout de coût plus que de problématique technique. Mais oui, on est sur de la très haute définition.
Vous avez mis combien de temps pour développer ce produit ?
Écoutez, on en est à la 6e version. Pour arriver à ce qu'on présente aujourd'hui, c'est-à-dire un écran 4K, on a fait 6 versions différentes, globalement une version par an, et on est parti d'une définition de 6 mm de pitch, en fait, d'écart entre les diodes, donc de basse définition, il y a 6 ans, qui était déjà une prouesse technique, et pour arriver à une résolution 4K aujourd'hui.
Alors, si j'ai bien compris, vous êtes en train de démarcher des clients potentiels avant, on vous le souhaite, de lancer la production à grande échelle. Vous visez quelle cible ?
La cible est très large. En fait, nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment répondre à un besoin pour les professionnels qui ont besoin de communiquer. Donc, c'est vrai que la cible est très large. Je vous avouerai que depuis 6 ans, en fait, nous, on a fonctionné pendant 6 ans grâce à aux clients qui ont plébiscité le produit. Et nos clients, c'est à la fois de la TPE, de la très petite entreprise, et jusqu'au grand groupe. EDF, des banques, des institutionnels, des mairies, des régions. En fait, on s'adresse vraiment à tout type de professionnel qui a besoin de communiquer en mobilité.
Ça coûte combien, un Ibanair ?
Alors, nous, on a une gamme de l'HD à la 4K. Notre gamme tarifaire, elle commence à environ 9 000 euros pour se terminer sur une très haute gamme à 15 000 euros environ.
Alors, au-delà du produit que vous nous présentez, j'aimerais que l'on parle un peu de vous, Serge Djelloul, parce que vous avez un parcours incroyable. Vous êtes un ancien hockeyeur international, champion de France en 99 avec le club d'Amiens. Comment est-ce qu'on passe de la crosse de hockey aux écrans high-tech ?
Assez simplement, le hockey sur glace en France, alors j'ai joué aussi un petit peu à l'étranger, mais en France, le hockey sur glace n'est pas un sport majeur. Donc on n'a pas d'autre alternative que de penser à sa reconversion. Et je dirais que c'est même très très bien pour l'esprit de penser à sa reconversion pendant la carrière, mais on n'a pas le choix dans le hockey sur glace. Donc en fin de carrière, il faut évidemment trouver un métier et de quoi s'occuper avec une passion aussi. Et moi, j'étais toujours attiré par la communication depuis, j'ai travaillé pendant que je jouais au hockey sur glace. Et naturellement, en fin de carrière, le multimédia me passionne. Et donc, j'ai monté différentes sociétés, structures de communication, une web agency en 2002 et puis une société tournée plus sur les écrans géants en 2014.
Merci beaucoup, Serge Djelloul, de nous avoir présenté votre innovation Ibanair, le premier kakémono à LED très haute définition et pliable. On vous souhaite beaucoup de succès.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à tous, bon réveil. Nous sommes le mardi 14 juin. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre où il sera question de la vague de chaleur qui arrive. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale du don de sang.
Oui, l'occasion de rappeler qu'il est important de se mobiliser. Selon l'établissement français du sang, l'été sera difficile. Chaque année, pendant les vacances, les donneurs manquent à l'appel dans les centres de prélèvement. Une situation d'autant plus inquiétante que les stocks de sang restent inexorablement insuffisants. Nous sommes dans un quart d'heure avec le directeur de la collecte à l'EFS.
Et juste après, on va retrouver notre spécialiste littérature, Nicolas Caro.
Pour le 49e roman de l'écrivaine Françoise Bourdin, ça s'appelle Un bel horizon.
Mais avant la météo, avec Anissa Haddadi, du très très beau temps en perspective, sauf sur les Pyrénées.
Oui, c'est une très belle journée pour tout le monde. Alors ce matin, c'est du soleil sans exception. Hein. Tout le monde a un soleil assez radieux. Dans le sud, sur le golfe du Lion, on a peut-être quelques passages nuageux en altitude, mais vraiment rien de très inquiétant. Et puis ça va se charger au fil des heures cet après-midi en montagne. Vous parliez des Pyrénées, Julien. Le massif central est également concerné. Et puis le sud des Alpes avec des nuages un petit peu plus épais et qui donneront des orages en fin de journée. Des orages qui pourront localement être assez forts hein, avec de la grêle et des rafales de vent. et qui vont se décaler vers la Nouvelle-Aquitaine et vers l'Occitanie dans la nuit, enfin ce soir et cette nuit. On aura du vent marin aussi sur le golfe du Lion. Alors on va faire très attention aux incendies hein, parce que ces températures très élevées sur les sols très secs avec ce vent marin qui souffle à 50 km/h, vous le savez, dans le sud ça peut créer des dégâts partout ailleurs. Bon, magnifique soleil, des températures qui continuent de grimper cet après-midi, 37 à Albi, 35 à Tarbes, 34 pour Angoulême, 32 à La Rochelle et Saint-Étienne, 30 à Clermont-Ferrand et Marseille, 28 à Nice et Strasbourg, 27 du côté de Nîmes, 25 à Brest, 24 à Paris et 20 à Dunkerque. Ce matin, encore un peu de fraîcheur avec 8 à 13 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 22 au bord de la Méditerranée.
Merci beaucoup Anissa Dadi et à tout à l'heure pour une nouvelle météo. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce mardi, cette alerte aux températures caniculaires sur la France. Anissa nous en parlait à l'instant, la vague de chaleur touche déjà le sud du pays. On pourrait atteindre les 40 degrés à l'ombre dans les prochains jours. Les maisons de retraite s'organisent pour protéger leurs pensionnaires. L'entre-deux-tours des législatives, la Macronie s'interroge sur la stratégie à suivre pour contrer l'effet Nupes. Elle doit aussi resserrer les rangs de sa propre majorité. Et puis le bac de philo, c'est demain. Les futurs bacheliers plancheront sur la traditionnelle épreuve de philosophie. Une application propose de se plonger dans l'univers des séries télé pour réviser.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. On vient de l'entendre avec la météo d'Anissa Haddadi. Le thermomètre commence à grimper. On a déjà atteint un record hier dans le sud-est, plus de 37 degrés à Cuers dans le Var. Le pic de cette vague de chaleur qualifiée d'anormale est attendu à partir de jeudi et jusqu'à la fin de la semaine. Une bonne partie de la France devrait suffoquer dans les maisons de retraite. C'est le branle-bas de combat pour protéger les plus fragiles. Thibaut Huss s'est rendu dans les pattes du château du Poitou en région parisienne. Reportage.
J'ai du jus frais à vous proposer et de l'eau fraîche. Et avec la chaleur qu'il fait, c'est mieux de boire.
Six carafes d'eau remplies à ras-bord, posées sur un chariot. À l'heure du goûter, les résidents doivent s'hydrater et sa Geneviève, 90 ans, l'a bien compris.
J'ai augmenté la quantité d'eau. Là, j'ai fait mettre un peu de menthe. C'est pas très bien pour le diabète, mais tant pis.
Toutes les heures, une aide-soignante fait le tour des chambres pour apporter de l'eau. Le plan canicule prévoit une batterie de nouvelles règles, explique Mélodie Jacques, infirmière coordinatrice.
Bien veillé à ouvrir quand il fait frais, bien veiller à refermer bien l'après-midi parce que c'est ensoleillé. Plutôt mettre les résidents dans les espaces qui sont climatisés ou au moins où il y a des ventilateurs.
Et avec 6 soignants pour 46 résidents, l'effectif pourrait bientôt être insuffisant, redoute la directrice Aline Varache.
Si on sentait que les chaleurs montent vraiment et qu'on est en difficulté, on irait à recruter d'autres professionnels pour peut-être aider à hydrater les résidents, voir à ce qu'ils soient bien dans leur chambre.
Un dispositif qui se répète chaque année et qui pousse l'établissement à doubler ses dépenses pour affronter les températures.
Reportage Thibaut Huss.
Voilà, et dans le Gard, un incendie a détruit 150 hectares et 60 bungalows au Gros du Roi hier après-midi, l'un des plus grands campings d'Europe. Aucune victime à déplorer, un sapeur-pompier a été blessé.
On en vient à la campagne pour les législatives. La Macronie tente d'organiser la riposte face à la menace Nupes.
Et ça commence déjà par remettre de l'ordre dans ses propres rangs. Ensemble, cette confédération présidentielle, si on peut l'appeler ainsi, regroupe plusieurs partis. Eh bien, elle doit composer avec des alliés redevenus encombrants. C'est le cas d'Horizon, la formation de l'ancien Premier ministre. Édouard Philippe pourrait former un groupe parlementaire dans la nouvelle Assemblée et peser sur la majorité. Emmanuel Macron va devoir faire avec Jacques Seret.
Oui, et il suffit d'échanger avec plusieurs proches de l'ex-Premier ministre pour faire ce constat. Le résultat de dimanche fait les affaires d'Horizon. Nous sommes très contents, lâche cyniquement dans un grand sourire un conseiller du parti philippiste. Ça y est, Édouard Philippe va pouvoir faire danser Emmanuel Macron, se réjouit un autre. Car dans les prochaines semaines, les prochains mois, le président ne pourra pas faire sans son ancien Premier ministre pour faire passer ses réformes. Et au sein d'Ensemble, la confédération qui regroupe les différentes composantes du camp présidentiel, cet enjeu est déjà bien intégré. Cette majorité va être très difficile à gérer, peste d'avance un cadre d'En Marche. Car du côté du Modem, là aussi, on se sent pousser des ailes. Plus que jamais, on sera un groupe charnière, revendique un proche de François Bayrou, qui ne voit pas d'un bon œil les ambitions d'Édouard Philippe. Comme si une bataille interne débutait désormais, comme si avec ses législatives, Édouard Philippe avait constitué sa rampe de lancement pour la présidentielle de 2027.
Jacques Seret du service politique d'Europe 1. Sur France 2 hier soir, Jean-Luc Mélenchon a lancé un appel aux plus jeunes des abstentionnistes. Il faudrait quand même qu'ils se mêlent un petit peu de leurs affaires, leur a lancé le leader de la gauche unie. 69% des 18-24 ans ont déserté les urnes dimanche. La NUPES fait de la mobilisation de cet électorat l'une des clés de ce second tour des législatives.
À droite et au-delà, on fait les comptes. La l'absence d'union a coûté très cher à Éric Zemmour.
Reconquête n'enverra aucun député à l'Assemblée, 4% des voix seulement. Un naufrage illustré par l'élimination dès le premier tour dans le Var d'Éric Zemmour. La faute à l'absence d'accord avec le Rassemblement National et les Républicains, c'est l'analyse de Stanislas Rigaud, membre du bureau exécutif de Reconquête.
C'est une défaite, évidemment. Il faut tirer les conclusions de cet échec. Pour autant, nous sommes heureux avec Reconquête d'avoir notamment investi 130 candidats de moins de 30 ans partout sur le territoire, d'avoir planté des drapeaux Reconquête et français partout dans ce pays. Je suis alarmé à l'idée de voir autant de candidats d'extrême gauche représentés par la NUPES à l'Assemblée nationale potentiellement la semaine prochaine et devant une majorité macroniste aux ordres comme c'était le cas pendant 5 ans. La perspective, c'est l'ancrage que nos candidats ont pu créer pendant cette campagne. Nous sommes un parti qui a 6 mois maintenant, qui a réussi à investir 550 candidats, qui a réussi à fédérer 130 000 adhérents. Donc cette masse de personnes, cette volonté de se battre pour ses idées n'est pas morte. Les problèmes des Français n'ont pas été résolus suite à notre défaite de dimanche soir. Et tant qu'on aura des idées, tant qu'on aura des choses à changer dans ce pays, nous continuerons de nous battre. Évidemment, Éric Zemmour continuera de porter ses idées, de porter ses propositions partout dans le pays. Et nous avons un travail de structuration à faire du parti, de formation, auquel nous allons nous atteler le plus rapidement possible. Il est évident, au vu des résultats, qu'il y a 3 grands blocs, que le bloc NUPES a réussi à s'allier pour faire un gros score autour des 25%. Pareil pour le clan de la Macronie qui a réussi à fédérer autour d'eux les petits partis satellites. Et les seuls qui n'ont pas réussi à faire ça, c'est la droite. Vous voyez la puissance de l'union ou de la désunion.
Stanislas Rigaud avec Victor Chabert.
Suite du procès du violeur de la Sambre aux Assises du Nord, la Cour va entendre aujourd'hui les victimes pour la première fois.
Les auditions s'étaleront sur 15 jours. Hier, le président de la Cour d'assises a tenté de percer le mystère d'Ino Scala. Père de famille modèle le jour, prédateur sexuel la nuit, 56 viols et agressions commis pendant une trentaine d'années. Et cet après-midi, les victimes vont affronter leur bourreau. Pour certaines, ce moment est une nouvelle et terrible épreuve, comme l'explique maître Fanny Bruyère, partie civile dans ce procès.
Je leur ai dit de rester avant tout naturel et de maintenir bien évidemment ce qui a pu être dit dans le cadre des auditions. Maintenant, une de mes clientes est quand même assez âgée. Les faits sont contestés par M. Scala pour elle, donc ça va être une épreuve très éprouvante, je pense. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu cet interrogatoire. Alors, il y a des échelles plus ou moins accentuées, je dirais, sur les 9 parties civiles que j'assiste. Mais bien évidemment, on apprend à se construire ou on se construit pas avec cette douloureuse épreuve qu'elles ont pu vivre dans le passé et contrairement à M. Scala qui pense déjà à envisager sa petite vie et sa sortie, elles vivront jusqu'à la fin de leur jour avec ça à l'esprit.
Maître Fanny Bruyère, avocate des parties civiles au micro de Lionel Gougelot. Réquisition attendue aujourd'hui au procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Le déraillement d'un train intercité avait fait 7 morts dans le box, 3 prévenus dont la SNCF et un ancien cheminot chargé de la surveillance des voies. Leurs avocats plaideront demain, jugement rendu en délibéré.
C'est l'épreuve emblématique du bac et elle le reste, malgré la réforme Blanquer. On parle bien sûr de la philo.
Les futurs bacheliers plancheront demain dès 8h et pendant 4 heures sur un sujet au choix, dissertation ou commentaire de texte. Rien n'a changé, sauf peut-être le moyen de réviser la philo. Pourquoi ne pas essayer via une application? C'est ce que propose Brevet Bac Sup en partant d'une idée simple, illustrer la philo en se servant des séries télé à succès. Louise Salé.
La liberté avec la servante écarlate Hegel dans Hollywood ou encore Socrate pour Orange is the New Black. Les parallèles avec la philosophie ne manquent pas. Pour décrypter par exemple le comportement du héros de la série You qui ne contrôle pas ses pulsions, eh bien rien ne vaut un éclairage de Freud. Caroline Métro est fondatrice de Nomade Éducation qui a développé l'application.
La servante écarlate où il y a un régime politico-religieux qui fait des femmes juste des porteuses d'enfants. Là on va vraiment aborder ce concept de liberté et voir tout ce que Rousseau exprimé dans sa littérature. C'est exactement les sujets du programme du ministère d'Éducation nationale. C'est une série qui a beaucoup marqué les jeunes. Si on leur parle que de Kant, de Freud, de Socrate, parfois c'est peu parlant. La philosophie, c'est une matière géniale. Et on s'est dit que si on abordait par un sujet qui les concerne, auquel ils sont sensibles et qu'ils comprennent, ils comprendraient mieux.
25 000 élèves ont à ce jour consulté ce module de philosophie. Nomade Éducation a prévu d'enrichir l'application à la rentrée avec des films pour illustrer encore plus de concepts. Et en attendant, pour les premières qui révisent leur bac de français, les figures de style y sont étudiées à travers des morceaux de rap.
Louise Salé, l'application s'appelle Brevet Bac Sup et elle est gratuite. Un dernier mot de sport en finale NBA. Golden State prend l'avantage dans la série et mène face à Boston 3-2.
Après une victoire à l'instant à 104 contre 94, c'était le journal de Christophe Lamarre. Merci beaucoup Christophe. Les courses hippiques à présent avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction l'hippodrome de Compiègne pour un mini tiercé, 13 partants seulement, sur la distance de 2000 mètres, avec un favori incontournable, Ashgar, le numéro 1, qui certes devra porter le top weight de ce handicap avec 59 kilos, mais c'est justifié au vu de ce qu'il a réalisé, notamment lors de ses deux seules sorties cette année, qui se sont soldées par deux probantes secondes places face à une adversité certainement plus relevée que celle de cet après-midi. L'opposition sera constituée par les numéros 10, Louman, sachant finir ses courses et qui dépend de l'entraînement très en forme du Deauvillais Stéphane Vatel, 4, Everman, irrésistible sur l'hippodrome de Marseille-Borély et qui auparavant avait très bien couru sur cette piste de Compiègne, et 2, Great Rotation, qui effectuera un long déplacement depuis l'Allemagne avec la confiance sans réserve de son entraîneur Anke Grouvé. Enfin, les numéros 3, Moneyman, 13, Ghost Spirit, 12, Tinette et 7, Olympic Dream compléteront ma sélection. Mon pronostic, As, 10, 4, 2, 3, 13, 12 et 7.
Europe1.fr pour retrouver évidemment dès maintenant tous ces pronostics. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. C'est le jour où, à présent, les grands faits historiques qui racontaient à travers les archives d'Europe 1.
C'était il y a 97 ans, le 14 juin 1925, Bernadette Soubirou, jeune fille de 14 ans, affirme alors avoir vu la Vierge apparaître devant elle dans une petite grotte de la ville de Lourdes. Et un peu plus tard, grâce à l'eau bénite, des guérisons miraculeuses sont constatées là-bas. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Laure, les miracles de Lourdes fascinent et interpellent beaucoup d'entre eux, ont été racontés sur l'antenne d'Europe 1 ces dernières décennies.
Oui, en 1971 est raconté le premier miracle sur Europe 1, l'histoire d'une petite fille handicapée qui n'a jamais pu marcher et qui marche ce jour-là sur une longueur de 35 mètres. Récit à l'époque de ce témoin qui a vu cet enfant.
Il marchait relativement bien, relativement vite. Et ce cri qu'il a poussé, c'est un cri de joie. Je crois que la mère n'a pas réalisé de suite. Elle s'est tombée ses bras, elle a regardé partir cette gamine, elle est devenue très blanche. Et puis alors après, on a vu la mère éclater en sanglots.
Deux ans plus tard, en 1973, la ville de Lourdes célèbre son 100e pèlerinage national. 100 000 pèlerins venus des quatre coins du monde s'entassent dans la basilique. Et à nouveau, une dame raconte au micro d'Europe 1 qu'elle était gravement malade et qu'elle a été guérie après un passage ici.
Je suis venue il y a 5 ans comme grande malade. Et alors, c'est pour remercier la Vierge que je suis là aujourd'hui avec mon mari.
La Vierge qui a les yeux qui clignotent, vous l'avez vu ?
Oui. Chacun son travail, vous savez, ces gens-là vivent de ça, mesdames. Que voulez-vous ? C'est pas défendu après tout.
Et puis quand on parle de guérison, Laure, on pense aussi à ces guérisons qui sont reconnues officiellement.
Oui, pour qu'une guérison soit reconnue par l'Église, il faut qu'un groupe de médecins déclare la guérison complète et inexplicable dans l'état actuel des connaissances médicales, puis qu'un évêque dise qu'elle est miraculeuse. Le médecin du sanctuaire de Lourdes raconte sur Europe 1 en 1995.
Nous recevons, depuis que je suis à mon poste, depuis 5 à 6 ans, nous recevons toujours une moyenne d'une quinzaine de déclarations de guérison. Vous voyez, ce n'est quand même pas rien. Mais ce matin, je recevais encore dans mon bureau un homme qui se sentait vraiment guéri dans son corps.
En 1999, a lieu à Lourdes la 66e guérison miraculeuse reconnue officiellement. Il s'agit de cet homme de 63 ans, Jean-Pierre Belly, habitant d'Angoulême, qui était atteint d'une sclérose en plaques et qui est reparti guéri lors d'un pèlerinage. Il a pu un beau matin se lever et marcher.
De dire aucune séquelle,
rien, aucun traitement, aucune séquelle, rien.
Alors que vous étiez
dans un fauteuil roulant. J'étais dans un état quoi, semi-grabataire, c'est ça. Pèlerinage a débuté très difficilement, mais s'est terminé de façon merveilleuse. Voilà.
Et depuis presque 200 ans, l'Église a reconnu 70 miracles à Lourdes et 7200 guérisons inexpliquées.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où, à suivre sur Europe 1, la journée mondiale du don de sang.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent début de matinée sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h44 et nous sommes le 14 juin. C'est aujourd'hui la journée mondiale du don du sang. L'occasion pour l'établissement français du sang de lancer un énième appel à la mobilisation avant l'été.
Bonjour Hervé Menrad.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur de la collecte à l'établissement français du sang. Tous les ans, l'été est une période difficile, cette année de surcroît, puisque les niveaux de réserve sont au plus bas depuis plusieurs mois. En février dernier, on en avait parlé ici même sur Europe 1. L'établissement français du sang avait publié un bulletin d'urgence vitale. Hervé Menrad, quelle est la situation aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est à nouveau dans une situation de stock bas. C'est une situation répétée qu'on connaît depuis 2 ans. Effectivement, on avait publié le bulletin d'urgence vitale au mois de février dans une situation d'extrême tension. Et les Français avaient bien répondu. Les donneurs nous avaient aidés à restaurer la situation. Et là, maintenant, à la fin du mois de mai, avec l'enchaînement des ponts et puis une diminution de la fréquentation de nos collectes, on se retrouve confronté en ce début de mois de juin, un niveau de stock extrêmement faible qu'il nous faut restaurer pour pouvoir préparer l'été et les besoins des patients pendant cette période.
En février dernier, on parlait de seuil de sécurité. Nous étions en dessous. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est ce que vous constatez également aujourd'hui ?
Alors, on est à un niveau extrêmement bas. On n'est pas tout à fait au même niveau, mais on s'en approche. Ces jours-ci, on s'en approche. Depuis qu'on a commencé à communiquer, on a des groupes sanguins pour lesquels ça devient extrêmement bas et la tension devient très, très forte.
Le nombre de donneurs baisse généralement en pleine période estivale. Là, vous parlez de niveau de stock très bas. Vous craignez que cette année, la situation soit encore plus critique cet été ?
Ce qui est difficile actuellement depuis le début de la pandémie, c'est qu'on a du mal à prédire ce qui va se passer. La situation a changé, il y a eu des changements profonds, structurels, assez importants dans le comportement des donneurs. Et donc, on a du mal à prédire les choses. Aujourd'hui, on a un stock qui est bas, qui est à 80 000 poches de sang en stock. Et pour attaquer l'été et répondre aux besoins des établissements hospitaliers par rapport à ce qu'on projette, il faut qu'on remonte ce stock autour de 210 000 poches pour début juillet. Donc il faut qu'on remonte le stock d'environ 30 000 poches. Donc c'est un effort assez conséquent à conduire.
Oui. Précisons-le tout de suite, on peut donner partout, même sur son lieu de vacances.
Sur les lieux de vacances, effectivement, tout au long de l'été, on a aussi des collectes qui sont organisées à proximité des plages et sur l'ensemble des lieux de vacances, de la même manière en montagne. Pour être au plus près des donneurs, on essaie de les suivre sur leur terrain de vacances et donc on peut donner aussi en vacances.
Vous donniez le nombre de poches dont vous aviez besoin en termes de donneurs. Vous avez besoin de combien de donneurs aujourd'hui ?
En termes de donneurs, derrière chaque poche, il y a un donneur. Habituellement, on compte 10 000 dons par jour. Aujourd'hui, on n'y est pas. On est en dessous de 9 000. Il nous faut 10 000 dons par jour et un peu plus, plutôt autour de 11 000, 12 000 donneurs par jour actuellement pour pouvoir restaurer notre niveau de stock.
Quel que soit leur groupe sanguin.
Là, aujourd'hui, dans la situation de stock où on est, oui, on a besoin de tout le monde. Il y a des périodes intermédiaires où effectivement on a des groupes ciblés. Les groupes O sont les groupes les plus demandés habituellement parce que c'est vrai qu'ils sont donneurs universels. Beaucoup de personnes peuvent recevoir leur sang. Mais là aujourd'hui, on a des niveaux de stock qui sont tellement bas qu'on a besoin de tout le monde.
Avec le télétravail, Hervé Menrad, vous constatez une chute importante des dons en entreprise. Selon vous, cette situation risque-t-elle de s'inscrire dans le temps puisque le télétravail est devenu notre quotidien et presque la vérité générale aujourd'hui ?
Tout à fait, ça fait partie des changements qui risquent d'être durables. C'est ce phénomène du télétravail et c'est vrai aussi pour les cours à distance pour les étudiants. C'est des choses qui risquent de durer et on l'observe sur les collectes d'entreprises et d'universités qui représentent certains mois de l'année jusqu'à 30% de notre activité de collecte. On a perdu énormément sur la période de la pandémie, c'est-à-dire qu'entre 2019 et 2021, sur l'année dernière, on a perdu l'équivalent de 170 000 dons. Donc, c'est plus de 3 semaines de collecte globale au national. C'est énorme, lié aux collectes perdues sur les entreprises et les universités. Et donc, c'est des territoires qu'on essaie de reconquérir. Aujourd'hui, on y retourne, on peut de nouveau y aller. Les salles sont ouvertes, on est de nouveau accueillis. Donc, ça, c'est des territoires sur lesquels on retourne. Mais on voit bien qu'on ne fait pas les mêmes collectes. On ne collecte pas autant de dons de sang que ce qu'on faisait avant sur les mêmes lieux parce qu'il y a moins de personnes présentes, il y a du distanciel. Et ça nous pose une vraie difficulté. Et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut pallier à ça, de quelle manière il faut qu'on réagisse pour pouvoir compenser cette perte qu'on a sur ces lieux de collecte.
Pas assez de donneurs et à l'image de la crise à l'hôpital, vous manquez aussi de personnel soignant pour collecter ce sang.
C'est un autre problème structurel qui nous touche, c'est notre personnel à nous, établissement français du sang. Donc pendant la pandémie, on a été comme tout le monde touché par un absentéisme lié à la pathologie, les cas contacts et tout ce qui pouvait impacter la vie des Français a touché aussi notre personnel. Et en plus, là aujourd'hui, on est confronté à la crise du recrutement sur les médecins et les infirmières dont on a besoin pour faire la collecte de sang et qui sont des métiers en très grande tension. Donc nous, on a des recrutements qui ne se font pas. On a actuellement plus de 60 postes de médecins et plus de 70 postes d'infirmières qu'on cherche à recruter et qu'on n'arrive pas à pourvoir. Ça nous limite dans notre capacité à augmenter notre offre de collecte aussi. Et donc, ça fait partie de nos difficultés actuelles.
Quand il manque du sang dans les hôpitaux, est-ce que le personnel soignant peut être amené à faire un tri de patients, un choix pour les transfusions ? Est-ce qu'on en est là ?
On n'en est pas là. C'est justement pour ça qu'on lance des communications ou des appels aux dons comme aujourd'hui avec un message sur la situation de tension. C'est justement pour mobiliser les donneurs et faire qu'on ait un retour rapide des donneurs vers nos collectes qui nous permettent de restaurer la situation et éviter d'arriver à des niveaux qui amèneraient à ces extrémités-là. Donc c'est pour ça qu'il est urgent de se mobiliser pour qu'aucun patient n'ait à souffrir d'un manque de poche de sang.
On peut prendre rendez-vous sur dondesang.efs.santé.fr, sur l'appli Don de sang aussi. Les donneurs peuvent également se présenter sans rendez-vous. C'est important de le dire. Merci beaucoup Hervé Menrad d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur de la collecte à l'établissement français du sang. Merci, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Après la collecte du sang, le 100% info avec Alban Leprince.
Alerte, vague de chaleur sur toute la France à partir d'aujourd'hui. Des records déjà battus hier avec notamment 37 degrés 6 à Cuers dans le Var ou encore 37 degrés 5 au Cap Corse. Conséquence, c'est un bac sous canicule qui s'annonce. Les directeurs des centres d'examen sont notamment appelés à s'assurer que les candidats aient de l'eau à disposition. La sécheresse qui pourrait une nouvelle fois pousser EDF à réduire aujourd'hui la puissance de sa centrale de Saint-Alban dans l'Isère, faute d'un débit suffisant du Rhône. Et puis Jean-Luc Mélenchon, premier menteur selon Elisabeth Borne, la première ministre, candidate aux législatives dans le Calvados. Réaction après les accusations du leader insoumis qui estime que Beauvau reclasse les candidats de la NUPES en divers gauche.
Allez, le mardi dans la chronique culture, c'est littérature.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Bonjour Nicolas, alors ce matin vous nous parlez d'une écrivaine qui se fait rare dans les médias.
Oui, mais pas dans les bibliothèques. Elle a vendu, accrochez-vous, 15 millions de livres en tout. En tout, il faut dire qu'elle publie son 49e roman chez Plon. Ça s'appelle Un bel horizon et c'est Françoise Bourdin.
Et qu'est-ce que ça raconte ?
C'est l'histoire du clan Bartoli, l'arrière-grand-père de la famille. Il tenait une petite auberge sur le Cap Corse il y a longtemps et l'auberge s'est agrandie et encore et le fils a repris l'affaire et son fils aussi, etc. Aujourd'hui, c'est Lisandra, la veuve d'Ettore Bartoli qui règne sur un bel hôtel, un peu luxe, qui s'appelle Bleu Azur. Elle n'est pas seule, elle a 4 enfants. Lucas, lui, est devenu avocat, mais il n'est pas loin. Il y a Ange et Julia aussi qui ont fait l'école hôtelière et qui gèrent l'hôtel. Ils aimeraient bien d'ailleurs s'affranchir un peu de la tutelle de leur mère. Et puis, il y a Orso qui vit avec eux, mais qui pose pas mal de problèmes avec sa personnalité borderline. Mais bon an, mal an, c'est une affaire qui marche.
Bon, j'imagine qu'à un moment, il va y avoir un problème, sinon il n'y a pas de roman.
Pour l'instant, l'ennui principal, c'est de faire accepter à Inès, la fiancée d'Ange, de signer un contrat de mariage. Lisandra refuse qu'elle puisse faire un jour main basse sur l'hôtel. Or, pour elle, sa future belle-fille est une arriviste. Mais l'affaire va se régler, je vous ne dis pas comment. Et on passe à une autre difficulté, parce que c'est ça, Françoise Bourdin. Il y a le fil rouge, bien entendu, la gestion de l'hôtel Bleu Azur. Mais ce sont plein de petites histoires qui s'enchevêtrent pour en construire une grande. D'ailleurs, l'auteur elle-même ne sait pas où son roman l'amènera. Françoise Bourdin.
Je pars pas avec un plan au départ. Je pars avec mes personnages, le thème que je veux développer. Et là, c'était gérer une affaire en famille. Et puis quand j'ai ça dans la tête, je me lance parce que il y a très longtemps, je faisais toujours un petit synopsis. Et bien sûr, à la fin du roman, ça n'avait plus rien à voir avec le synopsis. Donc, quel est l'intérêt d'en faire un ? Aucun. Donc voilà, je me lance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience, mais je me lance en toute confiance et je les laisse vivre. Mais finalement, on a l'impression qu'ils ont leur propre vie et que parfois, une réflexion désagréable dans un dialogue va modifier ma propre perception du personnage. Et ça, c'est la construction de ce mécano géant qu'est un roman me réjouit toujours autant.
Nicolas, elle se surprend elle-même en écrivant.
Voilà, et c'est le meilleur moyen de savoir si le lecteur sera surpris aussi. Et en parlant de surprise, j'ai découvert quelque chose à propos de Françoise Bourdin, la carrière qu'elle a failli embrasser.
Quand j'avais une quinzaine d'années, je suis beaucoup montée dans des écuries de course. Il y avait très très peu de femmes à l'époque. J'ai même pris une licence de jockey. Enfin, on ne disait pas jockey, on disait cavalière. Et j'ai passé, je pense, 3 ou 4 ans à Maison Lafitte, pratiquement 3 matins sur 4, voilà. Et franchement, monter un cheval de course, c'est exceptionnel. C'est mieux que n'importe quelle voiture rapide.
Un jockey incroyable. Et finalement, 50 romans.
Oui, 49 pour l'instant, mais elle travaille sur le 50e. Et elle n'a pas exclu de faire revenir certains anciens personnages dans le prochain. Peut-être, peut-être.
Oui, bon, on verra. Et le 40e donc, vient d'être publié. Il s'appelle Un si bel horizon. Merci Nicolas et on vous donne rendez-vous dimanche dans votre émission La Voix est libre sur Europe 1 entre 14h et 15h.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal, et puis la météo à nouveau.
Oui, j'espère qu'Anissa n'en prendra pas ombrage, mais on s'est permis d'inviter un météorologue pour approfondir sur cette vague de chaleur qui arrive en ce moment en métropole. Frédéric Decker de Météo News sera avec nous pour nous expliquer les ressorts de cette première canicule de l'année, potentielle en tout cas, jusqu'à 40 degrés attendus d'ici la fin de la semaine. Alors vous trouvez ça peut-être dingue pour un 14 juin, mais justement Anissa m'a trouvé une petite feuille, alors je vous donne quoi, un coup de sirocco en 2019, le 10 juin, 40,1 degrés à Ajaccio. Donc vous voyez, ça n'a rien d'exceptionnel en soi. Ce qui l'est peut-être davantage en revanche, c'est sa combinaison avec la sécheresse qui sévit dans de nombreux départements. Ça ne va évidemment rien arranger et ça va renforcer le sentiment d'étouffement général. Jusqu'à quand tout cela va-t-il durer et puis à quelle sauce allons-nous être mangés cet été? Rendez-vous à 6h10. On écoutera ensuite en blind votre partition.
Bon, alors le mercure continue de grimper. Hein. Une portoricaine née dans le Bronx devenue une star planétaire. Jennifer Lopez, héroïne d'un nouveau documentaire Netflix et de la partition dans 20 minutes.
Mais avant la météo avec Anissa Haddadi, je suis fatiguée ce matin. Nous sommes au cœur de la deuxième vague de chaleur de l'année. Je lis religieusement votre papier.
Et oui, cette chaleur nous a déjà touchés, souvenez-vous. C'était à la mi-mai, il y a un mois, tout pile. Mais il y a un mois, on ne parlait pas de canicule. Et cette fois-ci, on peut parler de canicule. Pourquoi ? Puisque la nuit, dans le sud, les températures vont rester autour des 20 degrés. La journée, plus de 35. Et cette combinaison pendant plus de 3 jours. Donc tous les ingrédients sont là pour parler de canicule. Les régions les plus exposées à ces fortes chaleurs sont les régions de la moitié sud de la France, évidemment. Alors aujourd'hui, on a un grand franc et beau soleil sur toutes les régions. Au fil des heures, ça va se couvrir sur les Pyrénées, avec même des orages qui éclatent sur le sud des Alpes. Les températures vont rester fraîches ce matin sur la moitié nord, avec 7 à Caen, 9 à Lille, 13 à Paris et jusqu'à 22 à Perpignan. Cet après-midi, grande différence, 21 à Dieppe, 27 à Paris, 28 à Nice et 37 pour Albi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi et merci à vous d'écouter Europe 1. Merci de votre fidélité. Nous sommes le mardi 14 juin. Il est 6h. Et à la une ce matin, des réserves dans le rouge, alerte sur la pénurie de sang à l'occasion de la journée mondiale des donneurs. Des chercheurs ont peut-être trouvé la solution, une révolution qu'on vous explique dans un instant. Comment reprendre la main face à Jean-Luc Mélenchon? Le défi des macronistes après les résultats des législatives. Parmi eux, Christophe Castaner, bousculé dans son fief de Provence. Et puis la France se prépare à une vague de chaleur, on en parlait à l'instant, en plus d'une sécheresse exceptionnelle. Attention à la pénurie d'eau potable, avertissent les fournisseurs.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal, c'est avec Romane Oquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Et si vous donniez votre sang, 30 000 poches, voilà ce qu'il manque dans nos réserves. À l'occasion de la journée mondiale des donneurs, l'établissement français du sang appelle à la mobilisation, surtout avant le creux de l'été.
Une pénurie chronique accentuée par la crise sanitaire et le manque de personnel soignant pour les prélèvements.
Et pourtant, chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires aux patients. Alors pour garantir cet approvisionnement, la recherche plante sur des alternatives au sang humain. Et l'une de ces solutions, vous allez l'entendre, vient même de l'océan. Yasmina Katou.
Première piste, fabriquer les éléments qui sont dans le sang. Le sang, c'est des globules blancs et rouges, du plasma, un liquide riche en protéines et des plaquettes. Lors des transfusions, un malade reçoit souvent un seul de ces composants. L'une des pistes pour remplacer le don, c'est la production de cellules en laboratoire, explique Patrick Morel, directeur de recherche à l'établissement français du sang.
On partirait de cellules souches humaines
pour les développer en culture, pour produire un grand nombre de ces globules rouges ou produire les plaquettes, de manière à remplacer au moins partiellement ce que les dons du sang apportent aux malades aujourd'hui.
Une entreprise bretonne produit déjà des globules rouges à partir d'un ver marin, une sorte de sang qui préserve les organes avant une transplantation, explique Franck Zal à l'origine de cette découverte.
Quand on déconnecte un greffon, un cœur, un rein, il va mourir très rapidement parce qu'il n'est pas oxygéné. Donc nous, on a montré que quand on utilisait cette molécule, au lieu de garder un greffon quelques heures, on peut le garder quelques jours. C'est un atout incroyable, cette molécule d'hémoglobine.
Les recherches se poursuivent pour que ce sang venu de la mer puisse être transfusé comme du sang humain.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Et si vous voulez donner votre sang, deux conditions, vous le rappelle, avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos.
Des résultats bidouillés, voilà comment Jean-Luc Mélenchon en a remis une couche hier soir sur France 2.
Le leader de la NUPES conteste toujours l'écart des voix entre son alliance et la coalition présidentielle. 21 000 bulletins séparent les deux formations politiques après le premier tour des législatives. Jean-Luc Mélenchon sera ce soir en meeting à Toulouse.
Pas d'intervention prévue en revanche du côté d'Emmanuel Macron qui part ce matin pour la Roumanie.
Oui, une semaine de l'entre-deux-tours consacrée à l'international alors que la majorité hésite, tâtonne sur la stratégie à adopter face à la NUPES. Certaines figures sont d'ailleurs en sursis. Amélie de Montchalin dans l'Essonne ou Christophe Castaner à Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence. Son fief, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, devance d'une très courte tête son rival de gauche. 31,1% contre 29,3% des voix, un score à l'image de l'amertume des électeurs rencontré par le correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel.
Il n'ira pas loin, Castaner, c'est tout ce que je peux dire.
Des avis très tranchés, même dans la ville de Fort-Calquier où il a été maire, Christophe Castaner divise.
Il est arrivé ici dans ce créneau d'anciens néo-ruraux. En fait, ici, ce pays est principalement fait de ça. Et avant, il était au Parti Socialiste. Il est rentré comme un loup dans la bergerie pour après retourner la veste et aller chez Macron pour devenir ministre. Et je me dis, mais comment il ose en plus revenir? Parce que c'est une trahison.
D'autres électeurs estiment que l'ancien ministre est un atout pour le territoire. Sébastien Vendéfleur sur les marchés.
Je ne pense pas qu'il y ait de score catastrophique, hein. Sur premier quand même pour l'instant. Après, c'est vrai que l'intérêt de sa candidature, c'est qu'il est en relation avec le pouvoir. Donc pour les financements et les investissements, il peut apporter un plus, quoi. D'avoir des relations qui peuvent aider à financer des grands projets. Et on a besoin de financement, nous, ici. Hein. On est un petit pays. Hein.
Très implanté localement, le candidat mélenchoniste Léo Baltaire a su rassembler les déçus du premier quinquennat Macron.
La gestion de la crise sanitaire a beaucoup énervé les gens ici. C'est vrai que bon, on n'est pas très enclin à donner une large majorité à M. Macron.
Ce duel, au pied des Alpes du Sud est l'illustration parfaite de la bataille actuelle entre la majorité présidentielle et les forces de gauche réunies.
Frédéric Michel, correspondant dans le sud-est de la France pour Europe 1.
Et le sud-est, une région déjà ravagée par les premiers feux de la saison.
Oui, dans le Gard, 200 hectares sont partis en fumée. Hier, des feux maîtrisés, mais toujours sous surveillance. L'un d'eux a d'ailleurs détruit une soixantaine de bungalows dans un camping du Gros-du-Roi sans faire de blessés.
Une sécheresse exceptionnelle, en plus d'une vague de chaleur précoce qui arrive dès aujourd'hui en France. 30 degrés partout, et voire plus, et ce jusqu'à la fin de la semaine.
Oui, un cocktail détonnant qui fait planer même le risque d'une pénurie d'eau potable. 36 départements sont déjà soumis à des restrictions. Les fournisseurs d'eau appellent aussi à la sobriété dans nos usages. Avertissement relayé par Tristan Mathieu, délégué général de la Fédération professionnelle du secteur.
Il faut que chaque utilisateur d'eau soit vigilant sur sa consommation d'eau. On pense au monde agricole, évidemment, mais aussi aux consommateurs d'eau, aux services publics d'eau. Là où on nous dit de ne pas laver la voiture avec le jet d'eau, on ne lave pas la voiture avec le jet d'eau. Là où on ne peut pas arroser, on n'arrose pas. Là où on ne remplit pas sa piscine, on ne le fait pas. Aujourd'hui, il y a déjà 26 départements début juin qui sont en arrêté sécheresse. Donc si vous allez dans le sud-est de la France, il y a vraiment de fortes tensions. Il y a déjà des villages qui sont alimentés en eau par des citernes. Et donc c'est ça qui doit amener une vigilance de tous. Et puis que nous, entreprises de l'eau, on aide à cette sensibilisation et qu'on apporte des technologies pour faire face à ça. C'est-à-dire notamment les compteurs intelligents qui permettent d'alerter s'il y a des surconsommations, qui permettent même aux collectivités de mettre en place des tarifications spéciales, heures creuses, heures pleines, pour faire en sorte que chacun soit bien responsabilisé sur sa consommation d'eau.
Tristan Mathieu de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau au micro de Céline Géraud. Julien, les années 80, je crois que c'est votre décennie à peu près. En 1982, un petit peu plus âgé que vous, il me semble.
Un petit peu beaucoup. On est vraiment pour un dinosaure. Hein.
pour ce tube du coup de
82
Boy
George. Ans.
Ouais, alors voilà, j'ai pas relevé, mais voilà. C'est peut-être
c'est
pas très élégant.
Tout à l'heure. Hein, cette bonne guerre.
Donc je disais, voilà, Boy George qui fait aujourd'hui ses 61 ans, qui n'est pas non plus un dinosaure.
Non,
je pense 61 ans, ça reste un âge acceptable.
C'est absolument très très jeune. Merci beaucoup Romain Hoquet pour ce journal.
6h06 sur Europe 1, on passe au journal des sports avec vous Martin Lange. Et football, la déconfiture jusqu'au bout pour les Bleus battus hier par la Croatie.
Oui, deux défaites, hein, deux nuls, zéro victoire, c'est le bilan complètement raté de ce dernier rassemblement de la saison. Défait hier 1-0 par la Croatie au Stade de France. L'équipe de France a déjà dit adieu à la Ligue des Nations dont elle était pourtant tenante du titre. Mais à 5 mois du Mondial au Qatar, c'est surtout le niveau de jeu qui inquiète, même si le sélectionneur Didier Deschamps se veut rassurant et rappelle les drôles de conditions de ce stage de fin de saison.
Je ne suis pas inquiet, je ne suis jamais d'une nature inquiète, évidemment. Il y aura besoin de beaucoup, beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre. Je pense sincèrement qu'on n'avait pas tous ces moyens-là aujourd'hui. Trois joueurs sur le banc qui sont mis en basket parce que je ne peux pas les faire rentrer. Il faudra, à la rentrée, faire beaucoup plus pour se préparer par rapport à l'échéance qui est la nôtre.
Didier Deschamps au micro de Cyril de la Morinerie. Avant la Coupe du Monde, il restera un rassemblement aux Bleus en septembre.
Les Bleus qui connaissent désormais leur premier adversaire du Mondial.
Oui, ça sera l'Australie. Les Socceroos ont battu le Pérou hier au tir au but lors des barrages. Ça rappellera forcément un bon souvenir aux joueurs de Didier Deschamps qui avaient battu les Australiens lors de leur entrée en lice en 2018, quelques semaines avant de remporter le Mondial. Ce soir, on connaîtra le dernier qualifié pour le Qatar. La Nouvelle-Zélande et le Costa Rica se disputent le dernier ticket. Match à 20h heure française.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Une nouvelle qui ravira les suiveurs de la Grande Boucle. Robin Bardet est de retour sur le Tour de France. Deuxième en 2016, il a fait l'impasse l'an dernier. Et puis un mot de basket, Golden State prend une belle option sur le titre en NBA. Les Warriors ont battu les Boston Celtics cette nuit et ne sont plus qu'à une victoire de soulever le trophée Larry O'Brien.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
La première canicule de l'année arrive, on en parle dans un instant avec le météorologue de Météo News, Frédéric Decker. À tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11 sur Europe 1, votre invité Julien est météorologue à Météo News.
Bonjour Frédéric Decker.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin alors qu'une grosse vague de chaleur est depuis hier en train d'arriver en métropole. Anissa Haddadi nous en parle. Est-ce que ça y est, vous le voyez clairement sur vos cartes et vos données, une canicule est en train de s'installer sur le pays?
Oui, ça se confirme. Ça a d'ailleurs déjà commencé sur les régions les plus au sud depuis ce week-end. On a déjà atteint 37-38 degrés, notamment sur l'arrière-pays provençal. Et donc, ça va continuer à gagner du terrain ces prochains jours. Alors, pas trop encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça reste plutôt cantonné aux régions méridionales une fois de plus. À partir de demain, ça commence à chauffer sérieusement, notamment au sud de la Garonne, puisqu'on dépassera déjà les 35 à 37 degrés. Et ça va se généraliser à quasiment tout le pays, notamment entre vendredi et samedi, avant sans doute une baisse des températures dimanche.
Avec des pics jusqu'à 40 degrés d'ici la fin de la semaine, vous confirmez ?
40 degrés, même sans doute un petit peu plus, hein, notamment entre jeudi et samedi sur les régions les plus au sud, hein, y compris la Nouvelle-Aquitaine, voire les Charentes. On pourrait atteindre localement 42, voire 43 degrés. Ce n'est pas impossible. Hein. Du coup, on battrait certainement des records de chaleur sur ces régions. Ailleurs, ce sera un petit peu moins chaud, évidemment, vers le nord et l'est, hein, mais tout de même des pics à 38, 39, y compris vers le centre-Val de Loire. Donc vraiment un épisode de chaleur assez remarquable.
Justement, comment on explique cet épisode de chaleur assez remarquable, pour reprendre vos propos ?
Parce qu'on aura en fait une situation assez atypique. On aura une dorsale anticyclonique qui s'étendra de l'Afrique du Nord vers l'Europe en passant bien sûr par la France. Dans le même temps, on aura ce qu'on appelle en météo une goutte froide, une petite dépression en fait qui se rapprochera du Portugal, qui fera un peu effet de pompe à chaleur et donc qui va générer un flux de sud direct en provenance justement du Sahara. D'où ces températures qui sont extrêmes et avec en plus des sols très secs hein, cette année qui font que l'évaporation sera limitée, accroissant encore justement cet effet de très forte chaleur.
C'est la même vague de chaleur qui est en train de cuire les Espagnols depuis quelques jours ?
Exactement, hein. C'est vrai qu'on dépasse déjà les 40 degrés sur une bonne partie de l'Espagne, notamment sur l'Andalousie.
47 hier à Madrid.
Exactement, c'est cette même vague de chaleur qui effectivement va progresser vers la France au cours de ces prochaines heures, ces prochains jours.
C'est inédit, Frédéric Decker, cette canicule, ces pics de chaleur pour la période, pour cette première quinzaine de juin.
Alors, c'est vrai qu'en première quinzaine de juin, c'est très rare. Hein. C'est même sans doute une première. Hein, on a eu des pics de chaleur du même ordre en 2019, mais c'était plus tard dans le mois. C'était vraiment en fin de mois, entre le 25 et le 30 juin. On avait même atteint les 46 degrés, hein, le record national dans l'Hérault. Donc aussitôt dans la saison, oui, a priori, aussi loin qu'on recherche, on ne trouve pas d'événement de ce type, en tout cas de ce niveau, avant le 15 juin.
Ouais. Il y a 3 ans, en 2019, il avait quand même fait 40,1 degrés à Ajaccio, c'était le 14 juin. Ça semble se répéter, en fait, c'est plus la fréquence qui semble de plus en plus exceptionnelle, que ces vagues de chaleur semblent se normaliser, entre guillemets.
Tout à fait, c'est vrai que les vagues de chaleur en elles-mêmes, on en a toujours eu, y compris dans des périodes plus froides de l'histoire de la météo. Par contre, c'est effectivement la fréquence qui augmente très nettement, notamment depuis la canicule 2003, hein, la fameuse canicule qui avait marqué les esprits avec des valeurs records sur tout le pays. Mmh. C'est vrai que depuis 2003, on voit que les canicules ont vraiment tendance à se répéter d'année en année. C'est quasiment tous les ans, finalement, maintenant, qu'on connaît ce type d'événement. Soit des pics caniculaires de 2 ou 3 jours, mais aussi des canicules plus durables, comme c'était le cas en 2003 ou encore en 2006.
Cette douceur généralisée, parce que tout ça s'ajoute à des saisons qui sont douces, en tout cas depuis l'automne dernier. On a eu un automne très doux, on a eu un hiver très doux, on a un printemps très doux. Est-ce que ça veut dire que l'été qu'on va avoir s'annonce très chaud, très sec ?
Il n'y a pas forcément de lien entre ces phénomènes. C'est vrai que parfois on a des hivers doux, des printemps chauds suivis d'été pas forcément très chauds. C'était le cas par exemple en 2011. On a eu le printemps le plus chaud à l'époque qui fut suivi finalement d'un été assez frais, en particulier le mois de juillet qui était même très frais et pluvieux. Mmh. Par contre, c'est vrai que cette année, si on suit vraiment les tendances météo saisonnières, on s'attend plutôt à un été chaud. Ça se confirme déjà pour ce mois de juin. Ça devrait a priori persister pour le mois de juillet et le mois d'août. Bon, bien sûr, il y a toujours une marge d'erreur d'environ 30% qui pourrait donner un scénario totalement différent. Mais a priori, on va vers un été chaud, effectivement, pour le mois de juillet et le mois d'août.
Ce qui est catastrophique avec cette canicule dont vous nous parlez depuis quelques minutes, c'est qu'elle vient s'ajouter dans de nombreux départements à une situation de sécheresse qui est d'ores et déjà critique.
Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis l'automne dernier, en fait, les pluies sont assez rares et faibles, hein, sur la plupart des régions, en dehors de quelques épisodes ou quelques orages qui ne suffisent pas à freiner cette sécheresse. Et en plus, justement, il y a cette très forte chaleur qui va à nouveau assécher les sols, que ce soit en surface ou même en profondeur. Donc c'est un peu le phénomène effet boule de neige, hein, ou le serpent qui se mord la queue. C'est la sécheresse qui donne la canicule qui ensuite amplifie la sécheresse. Donc malheureusement, c'est un peu vraiment le cercle vicieux. Donc ça s'annonce assez compliqué effectivement pour cette fin de semaine de ce côté-là, avec sans doute à nouveau des problèmes d'incendie notamment, et donc une agriculture qui va encore souffrir.
Ouais, et des orages très violents, on peut d'ores et déjà le prévoir pour ce week-end avec la baisse des températures assez brutale. Vous nous disiez il y a quelques instants un déficit de 10 à 15 degrés par endroit.
C'est vrai que les températures vont chuter donc entre samedi et dimanche, notamment sur une large moitié nord. Donc on attend effectivement un passage orageux. C'est encore un petit peu difficile d'anticiper leur violence, même si effectivement de l'air très chaud à l'avant et beaucoup plus frais à l'arrière, on peut craindre localement des phénomènes violents de type vent très fort et grêle.
Comme il y a 15 jours.
Ça reste encore vraiment à préciser. Oui, ça reste encore à préciser parce que là on n'est que mardi, donc pour la nuit de samedi à dimanche et la journée de dimanche. Donc c'est difficile d'être très précis pour le moment, mais en tout cas, effectivement, le risque existe.
Merci infiniment Frédéric Decker, météorologue à Météo News, d'avoir répondu à nos questions ce matin, de nous avoir éclairé sur cette vague de chaleur exceptionnelle, en tout cas pour ces 15 premiers jours de juin. Excellente journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci, avec plaisir.
Vous restez avec nous dans un instant, la partition de Jennifer Lopez. À tout de suite.
Et comme chaque matin, on conclut cette petite matinale avec vous, Omblin, et votre partition. Et c'est aujourd'hui que la plateforme Netflix dévoile son nouveau documentaire sur la chanteuse et comédienne Jennifer Lopez.
Ça fait 2 ans que les caméras la suivent. Halftime se veut être un documentaire intimiste et qui met en avant 2 de ses performances, le Super Bowl en 2020 et la cérémonie d'investiture du président américain Joe Biden.
Voilà. Voilà plus de 20 ans que Jennifer Lopez compte parmi les plus grandes stars de la scène pop et R&B.
En période d'affluence, de contrats et d'agendas surbookés, pour pouvoir l'atteindre, il faut passer par-dessus 5 attachés de presse, 2 stylistes, une maquilleuse, un coiffeur, un garde du corps, un chauffeur, un manager, mais ne vous fiez pas au monde qui fourmille autour d'elle. Jennifer Lopez est toujours la Jenny du quartier, partie de rien pour y arriver. Le quartier, c'est le Bronx, au nord de Manhattan, et c'est la danse, sa première passion. Ce grâce à quoi la jeune portoricaine va y arriver, cet art maîtrisé à la perfection qui va la décider à traverser les États-Unis pour tenter sa chance à Hollywood.
Les premiers cachets que Jennifer Lopez décroche, c'est pour danser dans des clips.
Oui, on l'aperçoit derrière les New Kids on the Block, Samantha Fox et Janet Jackson. Les premiers films ne sont pas vraiment des chefs-d'œuvre à l'image du gluant Anaconda. On finit par voir Jennifer Lopez devant la caméra d'Oliver Stone et de Steven Soderbergh. Mais le rôle qui lance définitivement sa carrière reste celui de Selena Quintanilla Pérez, un biopic sur celle qu'on appelait la Madonna mexicaine, assassinée à l'âge de 23 ans par son associée la plus proche et présidente de son fan club. Rôle proposé dans un premier temps à Salma Hayek, qu'elle a refusé.
Après le tournage, Jennifer Lopez se lance et enregistre sa première maquette.
Oui, en espagnol, c'est alors que le patron de Sony, Tommy Mottola, celui qui 10 ans plus tôt a fait de Mariah Carey l'un des plus grands phénomènes de l'industrie musicale, Tommy Mottola donc, suggère à Jennifer Lopez de chanter en anglais.
Le premier album est mis en chantier, reste à savoir quelle direction artistique prendre.
Alors autant vous dire que la scène musicale populaire est plutôt bondée à la fin des années 90 entre les boys bands qui usent de leur charme, le rock alternatif et les nouvelles icônes du hip-hop. Ce premier album va jongler finalement entre des ambiances latino, dance et R&B. Son titre montre l'implication de Jennifer Lopez dans son élaboration. On the Six fait référence à la ligne 6 du métro qu'elle empruntait lorsqu'elle quittait son quartier du Bronx pour se rendre à Manhattan. Elle signe 4 des 15 titres. Elle va vendre 8 millions de copies 20 ans plus tard avec ses 8 albums. Jennifer Lopez a multiplié ce nombre par 10. Le premier succès de Jennifer Lopez, If You Had My Love, extrait du premier album On The Six, sorti en juin 1999. Jennifer Lopez, héroïne du documentaire Half Time, disponible dès aujourd'hui sur Netflix.
Eh ben, on va aller voir ça tout, enfin, on va aller voir tout ça plutôt dans le bon sens. Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko sera avec nous. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, bonne matinée avec Europe 1.
Et on vous dit à demain, dès 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Nous